Bonsoir à tous. Alors, la première chose qu'il faut que je dise, parce qu'on m'a dit qu'il fallait le dire, donc je le dis, parce que je suis là, c'est que l'émission que vous écoutez s'appelle Le Libre Journal du mercredi soir ou de Serge de Beckett, comme vous voulez, vous l'appelez comme vous voulez. Ça, c'est de la radio. Et il y a une chose imprimée qui s'appelle un journal imprimé, qui est un décadaire, qui s'appelle Le Libre Journal de la France courtoise, que je fais moi aussi tout seul, enfin avec des copains, on fait ça à plusieurs. Et c'est pas la même chose, c'est différent. La radio, c'est la radio, le journal, c'est le journal. La seule chose, c'est que je fais l'émission et le journal. La radio, la cotisation, c'est au minimum 250 francs. Le journal, l'abonnement, c'est au minimum 600 francs. Voilà. Donc si vous voulez vous abonner au journal, vous envoyez 600 francs, 139 boulevard de Magenta, et non pas 139 francs, 600 boulevard de Magenta, parce que alors là, ça ne servira absolument à rien. Et si vous n'êtes pas encore adhérent de l'association de Radio Courtoisie, vous envoyez au minimum 250 francs à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat. Voilà, donc 600 francs, 139 boulevard Magenta pour le journal, si, et 250 francs boulevard Murat pour la radio. Est-ce que c'est clair? Est-ce que tout le monde a compris autour de cette table?
C'est pas l'essentiel, j'espère que les auditeurs ont compris.
Autrement dit, en payant 850 francs, on peut tout à la fois lire Serge de Beckett et l'entendre.
Et l'entendre.
Et pour entendre, le même prix, lire on peut aussi acheter... et entendre ses amis.
Pour le même prix, on peut acheter un revolver d'occasion à Barbès et se tirer une balle dans la tête, c'est encore plus radical.
C'est beaucoup moins agréable.
Merci, ma chère Martine, dont tout le monde aura reconnu.
Vous avez déjà essayé?
La voix.
Non, mais je lis le livre au journal de la France courtoise et j'écoute Radio Courtoisie.
Donc, vous l'entendez, Martine Bideux. Vous avez entendu juste avant, très brièvement, Serge Martinez. Vous en avez donc conclu qu'ils étaient mes invités de ce soir. À côté d'eux, le pasteur Blanchard.
Bonsoir.
Qui tape l'incruste, comme disent les jeunes maintenant.
Bien, parce qu'on m'a invité une seconde fois, gentiment. Je suis
et puis Claude Heinz, parce qu'on va parler encore ce soir de leur... Je trouve inextricable le nom que vous avez donné à votre association, qui s'appelle l'ICAF Social. Comment voulez-vous qu'on ait envie de donner de l'argent à un truc qui s'appelle l'ICAF Social?
On y a réfléchi, on a donné un sous-titre à cette association qui s'appelle Association d'entraide nationale. Ouais. Donc c'est plus explicite.
Oui. D'accord.
Me semble-t-il.
D'accord. Alors l'association d'entraide nationale, on en parlera tout à l'heure. Avant, je voudrais vous signaler qu'après, décidément je suis brillant ce soir, nous irons dîner chez la mère agitée avec Serge Martinez, pas avec Martine. Qui a autre chose à son programme. Alors, vous avez le choix, chers auditeurs. Vous pouvez rester chez vous, bien entendu, pour écouter la suite des émissions de Radio Courtoisie. Vous pouvez venir dîner avec nous, Serge Martinez, chez la mère agitée 21, rue Campagne Première, le téléphone.
Je n'ai pas le téléphone.
Non, bravo. Chapeau bas devant la guerre éclair.
Écoutez.
Donc, quelqu'un ait la gentillesse de nous téléphoner pour nous donner le téléphone. Ou alors, vous pouvez aller avec Martine Neuideux pour retrouver Sophie Brissot, ce qui est pas mal aussi.
Ce qui est très bien. Ce qui est très bien.
Martine et Sophie dans un même dîner.
Il faut aller soutenir Sophie Brissot. C'est une réunion publique qui a lieu à Ville d'Avray parce que Sophie Brissot est au deuxième tour de l'élection cantonale ce dimanche prochain. Elle est opposée dans cette élection à Monsieur Denis Badré, qui est le maire de Ville d'Avray. On va donc faire une réunion là ce soir. C'est que Sophie Brissot a progressé beaucoup à cette élection. Elle est passée de 14,4 à 18,11, c'est-à-dire qu'elle a gagné 4 points. Elle
donc a fait Sophie une campagne... a encore grandi alors.
Ah, Sophie a encore grandi, c'est merveilleux, et elle a fait une campagne remarquable, c'est-à-dire qu'elle est très implantée sur son canton. Je crois que les électeurs là ont donné un démenti cinglant à tous ces médias, ces journalistes et ces hommes et femmes politiques qui dénoncent le Front National et qui cherchent à bloquer sa progression. La progression a été forte.
Quand on a la possibilité de voter pour Sophie Brissot, c'est vraiment une faute de goût de voter pour quelqu'un d'autre.
C'est sûr. Et alors la réunion a lieu au foyer des associations donc de Ville d'Avray à 20h30, maille du docteur Beauvieux. C'est près de l'église de Ville d'Avray.
Qu'est-ce que c'est quoi cette adresse fantoche? Maille du docteur Beauvieux, c'est...
Mais oui, mais ça s'appelle comme ça, je suis obligée de le dire. Je ne sais pas qui est le docteur Beauvieux, je ne sais pas ce que c'est que ce maille.
Un maille, c'est dans le midi, mais à
Ville d'Avray, c'est plutôt curieux. Mais
plutôt
voilà, c'est comme ça. Enfin, foyer des associations, et là, on vous parlera politique.
Alors, donc, ce que je vais vous dire également, c'est que la semaine prochaine... Si Dieu nous prête vie, nous recevrons qui donc déjà? Ah, Jean-Marie Le Pen.
Un certain Le Pen, ah. Oui.
Je me doutais bien qu'il y avait un truc à dire. Donc, Jean-Marie Le Pen qui viendra pendant... Alors, l'émission durera 3 heures.
Oh oui, magnifique.
Il n'y aura pas 3 heures de Le Pen, il ne faut pas non plus. Hein, parce que le dimanche suivant, il y aura encore du Le Pen pendant 2 heures au BBR. Donc,
hein, trop fort n'a jamais manqué.
Trop fort n'a jamais manqué. Non, alors donc, la semaine prochaine, au moins 2 heures de Le Pen, et ça va être bien, je crois. Enfin, on essaiera de faire que c'est bien.
Un grand
c'est
moment,
français, ça,
non, un
non,
grand
pas
moment.
Français.
C'est du nouveau français, du néo, c'est franc.
C'est du néo, c'est franc.
Comment
et après Jean-Marie Le Pen, la semaine prochaine, nous recevrons un personnage que je veux recevoir depuis très très longtemps, qui s'appelle Monsieur Setzepfand. Ça s'écrit comme ça, s'éternue exactement, et qui est un des grands spécialistes de... J'espère qu'il ne va pas se vexer que j'ai dit ça. Non, je ne crois pas, il est trop intelligent. Un grand spécialiste de la géographie sacrée de Paris, et qui publie chez Ratier, très prochainement, un livre sur la géographie sacrée de Paris. Passionnant, vous allez voir. Le monsieur est passionnant, le livre aussi.
Ah, on va écouter.
Il faudra essayer d'écouter.
On écoutera Le Pen, on écoutera ce monsieur, et voilà.
Qu'est-ce que j'avais préparé quelque chose de très agressif, mais non, je ne veux pas commencer comme ça parce que c'est pas le moment. Je voudrais saluer, tiens, puisqu'on en parlait à l'instant, Jean-Marie Le Pen qui a réussi un exploit formidable, vraiment formidable. Il est parvenu à quelque chose qu'on pensait pas possible. Il a réconcilié la gauche et l'épiscopie et l'épiscopat, pardon. Excusez-moi. L'épiscopat.
L'épiscopie voilà. Aussi, d'ailleurs.
Oui, c'est un lapsus volontaire, je pense. L'épiscopie et l'épiscopat. Alors, parce que vous avez vu Le Monde, qu'est-ce qui m'a volé Le Monde? Il ne fallait pas le mettre à la poubelle avant que je l'ai lu, quand même. C'est de mauvais goût, votre affaire. Enfin, en tout cas, à la une du Monde, il y a un article qui explique que l'épiscopie... Là, je ne vais pas y arriver. L'épiscopat a condamné Le Pen. C'est étonnant, hein?
C'est scandaleux.
Ah, c'est tout à fait
scandaleux. C'est tout à fait scandaleux.
Alors... Vous savez que le principe, depuis des semaines, c'est naturellement de tartiner le pape de choses avec lesquelles d'habitude on ne tartine pas un pape. Et parce qu'il va il s'immisce dans les affaires politiques de la France, il porte atteinte à la laïcité, et les curés n'ont qu'un droit, c'est de la fermer, et les curés ceci, les curés cela. Et puis là, les curés disent « Le Pen, vous, là où les cordes et tout ». Alors là, du coup, la gauche trouve que les curés, c'est formidable. Ces curés, mais les évêques, les épiscopes, qu'on n'a jamais entendu parler ni de l'avortement, parce qu'ils n'en parlent pas, ni de rien, ils ne parlent pas de la drogue, ils ne parlent pas de la corruption politique, ils ne parlent de rien du tout de politique. En revanche, sur le coup de Le Pen, alors là on les voit appliquer ventre à terre et ils ont tous quelque chose à dire. Le terrorisme, jamais.
Non, mais jamais, non, pas parler des grands sujets, oui. En fait.
Alors, si on réfléchit bien, en fait, c'est pas nouveau, parce que ce soit depuis le Sanhédrin jusqu'au curé Fellouz, en passant par Cochon, les excommunicateurs de l'Action française, l'église collabo de l'Occup, les monsignors mafieux en Italie, vous avez toujours cette espèce de racaille en soutanée qui est du côté du manche, du côté des flics de la pensée, du côté des pouvoirs temporels, qui sont dans tous les coups pourris. Et là, encore une fois, on les voit. Et on voit, c'est ce que je disais tout à l'heure, espèce de monstrueux accouplement entre l'épiscopat et l'épiscopie du monde.
Oui. Alors, mais il ne faut pas qu'il se trompe, l'épiscopat, tout de même.
Oui, parce mais alors, ce qui est extraordinaire...
Il y aura beaucoup, beaucoup, beaucoup de militants, d'adhérents, de sympathisants du Front National qui seront ces jours prochains à Tours, à Reims, à Saint-Adoré, et qui viendront accueillir le
Alors
pape.
Alors vous avez remarqué que...
Pas qu'ils se trompent complètement quand même. Hein.
L'épiscope de Reims a dit, il a fait savoir qu'il n'avait pas invité M. Le Pen.
Vous croyez qu'on avait invité tous les députés?
Ah non, mais il a précisé que M. Le Pen, non.
M. Le Pen est président d'un groupe parlementaire.
Tous les députés,
et députés,
sauf Le Pen.
Ah bon, alors...
Je dois dire que ce qui est comique, vous comprenez, c'est que les mêmes qui nous disent à longueur de journée qu'on n'a rien à foutre de ce que racontent les curés, quand les curés attaquent Le Pen, ils les trouvent très intéressants. Donc
bien.
On voit bien qu'il y a la complicité des francs-maçons. Je les appelle des racailles en soutanée, mais ils n'ont même plus de soutane. Hein, des francs-maçons barbouillants curés et des francs-maçons barbouillants journalistes. C'est l'éternelle complicité de ces gens-là.
Mais on aimerait bien qu'ils nous parlent plus de la foi, de ce qui les concerne, en fait, de ce qui est leur devoir, leur travail,
faire,
et qui nous parlent moins de politique. Je crois que c'est Le Pen qui leur avait dit un jour que quand leurs églises seraient aussi remplies que ces meetings, ils pourraient peut-être lui donner des leçons. Le Pen fait son métier politique, oui, et il le fait remarquablement bien en défendant la France et les Français, et les évêques, les prêtres devraient, eux, s'occuper de la foi. On entend peu parler, en fait,
alors,
de la
quand,
foi.
Alors, quand les ports de Charlie Hebdo ont fait récemment un article intitulé « Bienvenue au pape de M », complétez vous-même, c'est un mot de 5 lettres, dans lequel... Alors, c'est Philippe Val, le grand copain du pédophile Fon.
Fon.
Vous savez, s'ils disaient Val et Fon, Fon et Val, c'était le duo magique... De Charlie Hebdo et de la télévision et de la radio et du spectacle. Et quand Fon a été arrêté après avoir eu un très joli papier dans La Vie, c'est La Vie ou oui, c'est La Vie. La Vie qui était jadis La Vie catholique illustrée. On va en parler tout à l'heure parce que ça mérite quand même le voyage. Donc, quand Fon a été arrêté, Val a expliqué qu'il travaillait avec lui depuis 20 ans, mais qu'il ne le connaissait pas. Il ne savait pas du tout que c'était un monsieur qui s'intéressait aux petites filles. Il n'avait jamais remarqué. Hein? Depuis 20 ans, ils travaillent avec lui. Ils font des spectacles. Ils passent leur vie ensemble. Ils dînent ensemble. Ils dorment ensemble, pratiquement dans les mêmes chambres de bonne, enfin, les mêmes chambres d'hôtel, etc. Ils font de la radio ensemble. Ils font de la télévision ensemble. Ils font les journaux ensemble. Et il ne sait pas.
Il ne savait pas
qu'il aimait les petits garçons, les petites filles. Ah, dites-donc, c'est bête, hein, si j'avais essayé. Alors, ce monsieur Val, donc, qui est un modèle de rigueur et de vertu, on l'a tous compris, écrit au pape, « Débarque avec ton barda, tissu de non-sens sanctifié, miracle pour handicapés mentaux, sauf que lui, Val, il risque pas d'être guéri par ça, parce que là, je crois que ça dépasse même les capacités du souverain pontife, fable pour paumer, répression de la joie de vivre, haine du plaisir, et qu'à regarder la tronche de Val pour imaginer ce que c'est que le plaisir, c'est qu'un tic pareil. » Censure de la connaissance, passion du pouvoir, déguisement de carnaval, ordre soi-disant moral pour maintenir les consciences dans un sous-développement propice à l'acceptation de l'asservissement, antisémitisme sournoisement doctrinal, ça mange pas de pain de dire
c'est
ça.
C'est une sorte de fou, parce que c'est très exagéré.
Alors, ça, naturellement, ça lui vaut des poursuites de la part de la griffe, et j'espère que cette fois-ci, il va trinquer, mais est-ce que vous avez entendu les épiscopes protestaient contre ce torrent d'insultes? Rien du tout. Rien du tout. Pas un mot. Pas un mot. Alors, quand Le Pen dit qu'il ne croit pas à l'égalité des races, alors là, les épiscopes se réveillent. Et alors, quand vous entendez Le Pen qui dit les nègres à l'extrême sud sont à considérer comme des animaux irraisonnables, je ne les place point au rang des hommes car ils occupent parmi les êtres un rang inférieur à celui de l'homme et supérieur à celui du singe puisqu'ils ont... la figure de l'homme et un discernement au-dessus du singe, évidemment, ça je comprends que ce n'est pas Le Pen qui a dit ça. Attendez, j'ai peut-être mal regardé.
C'est pas Monsieur Val?
Ah non, pardon, c'est Maïmonide.
Ah bon, d'accord.
C'est Maïmonide qui est un des grands penseurs talmudiques, hein, qui est dans son livre qui s'appelle « Le traité de théologie et de philosophie » par Moïse Ben Maïmoud, dit Maïmonide. C'est paru aux éditions Maisonneuve et La Rose. En 1981, c'est pas en 1833.
En 1981.
Hein? Donc, alors oui, effectivement, pardon, je me suis trompé. C'est pas du Le Pen, c'est du Maïmonide. Évidemment,
c'était un théologien originaire à l'époque de la conquête musulmane, originaire de Cordoue, qui a eu des grandes influences sur le christianisme, puisqu'il a remis Aristote au goût du jour, mais ça remonte au Moyen-Âge.
Ah, voilà. Voilà. Bon, ben, je me suis trompé, pardon. Je croyais qu'étant donné la teneur des propos, je me suis laissé emporter. Donc, rien à voir, on comprend effectivement que nos évêques ne condamnent pas.
J'aimerais ajouter un mot parce que j'ai mon ami Martine à côté. Nous étions il y a quelque temps ensemble devant l'hôtel de ville pour protester contre la construction de la grande mosquée à Paris. Et ce qui est extraordinaire, cet épiscopat qui, quand même, se permet le luxe de donner leçon de morale à tout le monde, en disant qu'on n'est pas chrétien quand on est du Front National, cautionne, au même titre que le clergé protestant, cautionne ce genre de démarche, de construire une mosquée à Paris la plus grande d'Europe, mais même plus loin que cela, il prête les églises catholiques, comme on prête malheureusement les temples protestants aux écoles coraniques, afin qu'ils fassent leurs écoles au sein d'églises, alors que, je vais me faire un peu de publicité, moi qui suis un protestant dissident, qui suis en train de constituer une communauté avec des gens qui sont exclus à cause de leur engagement, personne ne veut me louer quoi que ce soit. Alors ces gens-là se permettent de nous faire la morale, c'est quand même extraordinaire.
Il faut dire une chose aussi, et je crois que tout le monde en a été extrêmement choqué. les églises qui ont été occupées, qui ont été envahies, hein, plus qu'occupées, envahies par un certain nombre d'immigrés clandestins, lesquels étaient pour la plupart et même en totalité de religion islamique, ont été traités de façon ignoble. Le curé de l'église Saint-Bernard a ouvert ses portes, à l'évidence, puisqu'il a accepté cette occupation. Personne n'est intervenu. Il fallait voir l'état de l'église. Moi, je suis allée quand même dans l'église Saint-Ambroise, celle qui avait été occupée avant. C'était effrayant. Il s'y passait tout, la cuisine, les gens étaient étalés par terre, les dégradations les plus totales. On y faisait tous les besoins, vous pouvez imaginer. Et c'est Mademoiselle Béard, mais qui ne doit pas savoir de quoi elle parle, qui est allée aussi dans cette église, se comportant n'importe comment, a tout d'un coup demandé qu'on éteigne la petite lumière rouge de l'hôtel parce que ça les empêchait de dormir. Alors quand on accepte ça, dans un pays comme la France, qui est quand même un pays de tradition chrétienne, quand on laisse dans les journaux traiter sa sainteté, pape Jean-Paul II, chef de la chrétienté, comme il est traité, on n'a plus à prononcer de condamnation de qui que ce soit. Moi je suis je suis chrétienne, je suis catholique, et je suis militante depuis 1972 du Front National et maintenant vice-présidente de ce mouvement. Et je peux vous garantir, et comme des milliers, peut-être des millions de gens avec moi, ça ne nous gêne absolument pas. Bien au contraire, nous nous sentons parfaitement en harmonie en étant l'une et l'autre, comme le sont les protestants qui font partie du Front National et tout autre, et même ceux qui ont un grand respect de la morale, mais qui ne sont pas de telle ou telle religion. Rien ne nous gêne, et l'épiscopat devrait comprendre ça.
D'autant que les catholiques ne sont pas toujours ce qu'on pourrait espérer. Là, je disais la semaine dernière que la vie du 9 février 1995, qui publiait 3 pages sur Patrick Font, le pédophile actuellement en prison, mais à l'époque il n'était pas en prison, était introuvable. Alors, le résultat de cette déclaration radiodiffusée, c'est qu'immédiatement, il est devenu trouvable. La vente, le bureau de vente de la vie qui disait « Non, non, ce numéro est épuisé, maintenant le donne à qui il demande. » Et un de nos auditeurs est allé le chercher, il l'a trouvé. Alors, le papier est quand même assez extraordinaire quand on sait que c'est dans un journal qui se réclame de la tradition, enfin pas de la tradition, qui se réclame de l'église officielle conciliaire catholique et qui est distribuée dans les églises. Faut pas oublier ça, quand même, la vie catholique, les publications de la vie catholique, car c'est le nom officiel de ce journal, sont distribuées dans les églises. Alors, l'article est intitulé famille, il est dans la rubrique famille, éducation, il est intitulé à l'école de la vie avec Patrick Font. Alors quand on le lit avec le recul, c'est quand même pas nul, c'est pas inintéressant, on lit ça. Et 2 soirs par semaine, les enfants dorment dans ce semi-internat. Alors, c'est dans un grand chalet entouré d'un champ en pente douce, face à un cours de tennis et une piscine. Ils reçoivent le matin un enseignement conforme au programme scolaire, oui, ça m'étonne pas, tandis que l'après-midi est consacré à une activité sportive ou culturelle. Voilà. Donc, et 2 soirs par semaine, les enfants dorment dans ce semi-internat. Au début, mes parents étaient un peu méfiants. Avec des gens du spectacle, il faut s'attendre à tout. Et puis ils ont vite compris que Patrick, s'il fait le pitre sur scène ou à la radio, est très sérieux avec les jeunes, explique un fils des propriétaires de ce centre de vacances, investi en partie par l'école. Donc on voit tout de suite qu'ils ont tout compris au film. Alors un peu plus loin, on nous dit « Élevés à la débrouillardise, les enfants apprennent à devenir responsables et autonomes. Quand ma fille fait son chac le dimanche soir, c'est à peine si ma femme y jette un coup d'œil. On lui a acheté une carte de téléphone, elle ne l'a jamais utilisée », explique le papa de Charlène. On voit déjà le genre de parents qui ont envoyé leurs enfants dans ce claque, parce qu'il n'y a pas d'autre mot. La petite fait son sac, la mère ne regarde même pas dans le sac.
Mais est-ce que vous croyez qu'il y a de façon extrêmement sérieuse des enquêtes qui sont faites quand ces gens-là sont autorisés quand même à devenir ce qu'on appelle maintenant éducateurs, ce qui veut, dans mon esprit, moi, pas dire grand-chose, parce qu'il me semble qu'il y a un certain nombre de ce qu'on appelle soit colonies de vacances, soit centres aérés, soit autre chose, où on y retrouve des personnes, hommes ou femmes, sur lesquelles on n'a pas fait une enquête. Il devrait quand même y avoir, quand il s'agit de s'occuper d'enfants, une enquête de moralité extrêmement précise, extrêmement sérieuse, une enquête de santé, un ensemble de choses, parce que quand on confie des enfants, il me semble que c'est le domaine dans lequel l'enquête,
oui, bien sûr, Martine,
devrait être très importante. Or,
sauf,
on s'aperçoit que non.
Sauf quand il s'agit de M. Patrick Font, qui est...
Et il n'y a pas que lui, je veux dire. Là,
mais
c'est
oui,
un
mais
cas
là,
vraiment terrible.
Parce que c'est à la fois un militant de gauche. C'est une vedette de la radio et de la télévision. C'est un contempteur de toutes les traditions, qui a fait des émissions absolument hors du guerre à France Inter. Donc ce type, il est forcément reconnu par l'établissement qui considère que lui, il a le droit de s'exprimer en toute liberté, et il a le droit d'avoir, et on ne peut pas imaginer, vous comprenez, qu'il ne dispense pas un enseignement conforme à, aux besoins des enfants aujourd'hui. Et d'ailleurs, l'article ajoute, l'article de la vie catholique illustré ajoute, face à l'église de Thône, dans l'appartement de celui qui a fait enfler sa notoriété en exerçant ses griffes de provocateur dans l'émission Rien à cirer diffusée sur France Inter, les parents n'ont pas l'air de regretter d'avoir opté pour ce système d'éducation d'un genre inédit. Ça, évidemment, c'est le moins qu'on puisse dire. L'absence de notes, les voyages, les spectacles, passeport vers l'assurance et l'ouverture, les pics de Patrick contre le racisme et les inégalités, ben voyons, bien sûr, propre à faire naître une petite conscience, l'esprit de liberté de l'école et ses limites, tout cela leur a semblé préférable à un enseignement traditionnel. Moi, je voudrais savoir ce qu'ils pensent maintenant, ces parents. De quoi ils croient qu'ils ont l'air? À mon avis, ça tient en trois lettres, ce à quoi ils ont l'air. Hein? Alors, plus loin, les enfants sont tellement heureux, dit la maman de Ronan et d'Orane, qui est divorcée, les enfants sont tellement heureux, je ne pouvais pas leur faire rater cette formation idéale que j'aurais adoré expérimenter moi-même.
Mais est-ce que vous croyez vraiment que depuis les événements qui viennent de se dérouler et qui vont aller en augmentant, les violences terribles, cet enfant de 14 ans hier qui a tué un de ses camarades avec une arme à feu qu'il avait trouvé chargé dans l'appartement de son père. Après l'assassinat du petit Nicolas, 14 ans, par un immigré récidiviste et voyou. Après toutes ces violences à l'école, toute cette terreur qui entoure nos enfants. Parce qu'il y a certains parents qui disent aujourd'hui, nous envoyons nos enfants à l'école le matin avec l'angoisse de nous demander si nous les reverrons le soir. Avec tous ces films de violence terribles qu'ils voient tous les soirs, dont on les abreuve, avec toute cette littérature qu'on leur met dans les mains, alors qu'autrefois on nous amenait à lire des beaux livres, des beaux romans, des romans d'aventure et tout ce qui faisait notre éducation, notre formation. Avec tout ce qui se passe en ce moment, est-ce que vous croyez qu'à un moment ou à un autre, les parents ne vont pas changer d'opinion? Je vais vous dire juste une petite chose. J'ai regardé hier très peu de temps, mais c'est-à-dire environ un quart d'heure, mais pour me faire une opinion, un film qu'on a repassé qui s'appelle Gazon maudit. Et c'est un film qui n'était pas interdit au moins de 18 ans. C'est un film que, paraît-il, on disait que c'était une comédie, beaucoup d'enfants de 14 et 15 ans ont vu. Je puis vous dire qu'il y a des scènes scandaleuses, totalement ignobles. Et quand j'ai pu penser, c'était les jeunes gens, les jeunes filles de 14 ans qui regardaient ça, et vous comprenez, à un moment ou à un autre, les parents vont devenir des gens de plus en plus inquiets. Inquiet, angoissé, et il peut se passer d'autres phénomènes.
Oui, mais qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse? Il y a une espèce de terrorisme.
Les parents être
moral
là,
et être intellectuel présent. Tel. Regardez ce que dit Patrick Font là dans cet article de Corinne Chabot publié par La Vie catholique. Il dit en France, on veut transformer les choses. Ce type qui est un pédophile, qui a eu des comportements immondes avec des petites filles, enfin avec des jeunes filles et des gamines qui étaient dans son école, il se permet de dire « En France, on veut transformer les choses à condition de ne pas y toucher. Les parents eux-mêmes sont très conservateurs. J'en ai vu protester contre l'étincelle de bon sens de Bérou, la suppression des devoirs à la maison. Il est hallucinant de voir des jeunes travailler autant et finir à la NPE. Je suis pour l'école privée, gratuite et laïque et contre celle qui veut se faire du fric sur le dos des parents. Et comme je suis allergique aux autorités et aux fonctionnaires, je n'ai réclamé aucune subvention de l'État. » Et ça veut dire que ce type-là était considéré comme une autorité morale. Voilà, on vit maintenant dans un système...
Non, mais l'autorité morale, ce sont les parents. Vous me dites, voilà ce que pense M. Patrick Font. Excusez-moi de vous dire ça, je vais le dire un peu brutalement. Je me fous de ce que dit M. Patrick Font. Voilà. Une femme politique, je suis environnée de gens qui sont des parents, des grands-parents, des oncles et des tantes, ce sont des gens qui ont des enfants. C'est à eux de dire, c'est à eux d'avoir le courage de le dire, d'avoir le courage de défendre leurs idées, leurs opinions, d'avoir le courage de parler morale, respect de la vie, respect dû aux parents, respect dû aux enseignants. Tous enseignants, quand ils arrivent dans leur classe, d'exiger de leurs élèves un certain nombre de choses. Parce que si nous nous laissons, en effet, dicter notre loi par des gens comme ce Patrick Font ou par d'autres qui prennent la parole à bout de champ, à tour de bras, n'importe où et quand ils le veulent, évidemment, à ce moment-là, rien ne peut changer. C'est à nous de dire de vouloir et de contrer tout cela. Nos enfants.
C'est tout à fait de votre avis.
Ce ne sont pas ceux de ce monsieur qui en a peut-être, je n'en sais rien. Mais ce n'est pas à lui de décider pour nous.
C'est évident. Mais la réalité,
n'est pas bonne, c'est vrai.
La réalité, c'est qu'un personnage comme ça est tout à fait emblématique des autorités morales qui règnent dans ce pays. Car on ne va pas me faire croire que les gens qui l'entourent, qui le fréquentent depuis des années, qui l'ont fait rentrer à la télévision, qui l'ont fait rentrer à la radio, qui l'ont fait travailler dans des journaux, qui ont partagé sa vie, qui ont entendu ses plaisanteries, qui le connaissent intimement, personnellement, ne savaient pas à quoi s'en tenir sur la réalité des mœurs de cette crapule. Donc ils sont complices. Les gens qui ont fait travailler ce type à la radio savaient très bien, devaient se douter. Bon, pourquoi ça se passe comme ça? Parce que, ce que j'ai dit la semaine dernière et je répète, il y a un véritable lobby pédophile dans ce pays. Il y a des pédophiles à tous les niveaux de l'État et qui se protègent. Il y a des magistrats pédophiles, on le sait, il y en a un qui a été arrêté récemment, il y a des policiers qui appartiennent à ce lobby, il y a des hommes politiques qui appartiennent à ce lobby, ils se protègent les uns les autres, et Fon faisait partie des protégés. Il a été suffisamment idiot pour se faire prendre de telle façon qu'il a pas pu, on n'a pas pu mettre en branle le système de protection habituel. Mais le fait est là, tous ces gens se couvrent. Oui. Et d'ailleurs, il n'y a qu'à voir la formidable débandade, la panique qui s'est produite quand Fon a été arrêté.
Oui,
ça a été la panique dans le milieu.
Parce qu'ils se sont dit,
mais s'il y en a un qui est arrêté, on est tous maintenant susceptibles de l'être demain. Et si jamais Fon se met à parler, où on va aller, nous? Il peut y avoir... Donc cette affaire va être évidemment étouffée. Elle est d'ailleurs étouffée. Les journaux n'en parlent pas, les radios n'en parlent pas. J'écoutais l'autre jour la première émission de Rien à cirer de Ruquier après la rentrée, où je m'attendais quand même à ce qu'il fasse au moins une allusion au fait que son principal complice est en prison pour ça, qu'il fasse une allusion, quelque chose. Il s'est bien gardé d'en parler. Donc c'est une véritable panique qui règne dans le milieu en ce moment autour de cette histoire. Et c'est une panique qui prouve qu'il y a réellement un lobby et que là, c'est extrêmement grave. Et moi, je suis ahuri de voir que des parents, il suffisait de regarder la tête, il avait une tête de vieille cocotte. Hein, regardez la tête de ce type. Il suffisait de le regarder pour comprendre qu'il avait quelque chose de détraqué. Alors on va me dire, on n'a pas le droit de juger les gens sur la mine. Ben moi, je suis désolé, on peut quand même s'apercevoir. Quand un type est un détraqué, ça se voit. Ils sont bléchards, ils ont les yeux tirés, ils ont une mine de déterré. On voit bien que c'est des détraqués. Mmh. Voilà, ça se voyait. Et les parents qui n'ont pas vu ça, ce que vous disiez tout à l'heure, sont des parents inconscients. Bon, on remet pas ses enfants entre les mains d'un type qui est aussi douteux.
Voilà. Alors, on n'a pas le temps peut-être d'en parler totalement ce soir. Et puis, je ne suis pas la seule invitée de cette émission, mais je crois que dans notre mouvement politique, on l'a dit bien souvent, un manque de politique familiale, un refus d'accorder le revenu parental aux parents quand ils restent chez eux pour éduquer leurs enfants à l'époque où ils ont besoin d'eux, hein, une réforme de l'enseignement, l'attribution du chèque éducation, une lutte contre la drogue, contre la pornographie, une remise en cause des programmes télévisuels, des livres scolaires, etc. Tout cela a amené la situation telle qu'elle est aujourd'hui. Et le fait que les jeunes mères de famille soient de moins en moins présentes, c'est vrai, dans leur foyer, qu'elles aient de moins en moins de temps puisqu'elles travaillent, si on leur a pas donné tous les avantages fiscaux, sociaux, économiques, la construction des logements adaptés, au profit pourtant d'une immigration invasion terrible, puisqu'on parle aujourd'hui de 700 000 immigrés clandestins dans notre pays, de 150 000 entrés sur le territoire, de gens auxquels on accorde immédiatement toutes les prestations sociales, fiscales, économiques, d'habitat et autres, fait que la situation des familles aujourd'hui est terrible et elle a une conséquence sur l'éducation des enfants, sur l'enseignement qu'il leur est donné et sur l'attention et la présence des parents. C'est que, ne serait-ce qu'en région parisienne, où vous avez de moins en moins de Parisiens qui habitent Paris, qui sont partis habiter en banlieue, quand vous partez le matin à 6h du matin, que vous rentrez le soir à 8h, vous êtes une jeune mère de famille, vous avez le moins en moins de temps d'être avec les enfants, d'aller les chercher à l'école, de leur parler, de travailler avec eux, d'être présent vraiment des travaux scolaires, de les questionner pour savoir ce qui se passe à l'école, d'y aller, d'être présent dans les conseils de parents d'élèves, etc. Tout ça fait partie de cette décadence, de cette dégradation et de ces dommages de plus en plus graves que subissent les enfants, c'est évident.
Un auditeur nous téléphone, alors je sais pas si c'est vrai, il faudra vérifier, nous dit à ma grande stupéfaction, j'apprends que Patrick Fon a été libéré ce matin à 10h30. Je rappelle qu'il y a eu, qui a circulé dans les jours qui ont précédé, une pétition pour la libération immédiate de Patrick Font, qui était dirigée, la pétition qui était lancée à l'initiative d'une revue pédophile qui s'appelle, je crois, Tantal, comme par hasard. Et bon, voilà. Donc le lobby a fonctionné, il a fait libérer un de ses membres.
Vous le disiez, absolument.
Mais voilà. Ça me paraît plus grave que ça. Moi, c'est l'éducateur qui parle. Je crois que c'est lié à toutes ces utopies mondialistes. Si on laisse rentrer les gens, si on prône la liberté totale, c'est lié à tout ce qu'on nous a inculqué, mis dans la tête après 68. Et je crois que c'est ça qui est très grave. Au-delà de ce problème de ce gars qui et de ces réseaux pédophiles, il y a au niveau des éducateurs, parce que c'est mon métier, il y a toute une façon de fonctionner, toute une vision du monde qui est destructrice. Et là, il y a tout à refaire, tout à reconstruire.
Je vais vous dire, il y a une chose qui, à mon avis, au moins, enfin, qui est aussi grave, peut-être pas aussi grave, mais qui est grave également, c'est le fait que ce genre d'histoire dissuade des dizaines de bénévoles de continuer à s'occuper d'organisations et d'associations et de groupes d'adolescents et d'enfants.
Oui, sûrement.
C'est évident. Parce que ça devient maintenant, la suspicion se généralise, et pour cause. Les gosses, entendant parler de ça, vont certainement avoir tendance à en rajouter, à fantasmer, comme ça se passe toujours. Et je suis certain que d'ores et déjà, dans beaucoup d'associations, il y a des gens qui disent, moi, c'est fini, je ne prends pas de risque, c'est trop grave, c'est trop...
Oui, mais on aurait dû prendre des mesures très, très fortes, mais on n'aurait pas dû médiatiser ça au maximum.
Ça mérite d'être médiatisé au moins autant que...
Vous savez, la médiatisation, elle peut être importante dans certains cas, mais il y a des moments où il vaut mieux ne pas trop en parler. Est-ce que vous croyez vraiment que c'était très utile de parler de ça tout le temps, en expliquant ce qui s'est passé, en donnant force détail d'ailleurs?
Moi, je crois, Martin. Vous voyez, un auditeur nous dit, arrêtez de nous parler de Patrick Font, il y a des choses plus importantes. Mais personnellement, je ne le crois pas.
Oui, mais on peut,
je crois que c'est tellement emblématique.
Ah oui, d'accord.
De la crapulerie, de la mafia qui est au pouvoir médiatique, au pouvoir politique, au pouvoir intellectuel et même au pouvoir spirituel.
Tout à fait.
Qu'il faut en parler, il faut dénoncer cette complicité.
Ah non, mais qu'on le dénonce, c'est une chose.
Il faut dénoncer cette horreur parce que ces gens-là.
On les met en prison aussi.
Sont ou des complices pratiques, je dirais, de ce qui se passe, ou des complices moraux. Ouais. Car les gens qui ont aidé ce Patrick Font. Et à faire la carrière qu'il a fait, à devenir une autorité morale, sont des gens qui font ça dans un but de destruction. Il y a des gens qui sont attachés à la destruction des valeurs fondamentales de notre
pays. Mais ça va plus loin que ça. Ils sont tellement imbus de leurs principes qu'ils préfèrent voir tout détruire plutôt que de céder sur les principes. C'est le problème de l'Église. On préfère voir des écoles coraniques, quitte à ce que les églises soient vides, plutôt que de pactiser avec des gens comme nous.
Hein. Vous savez, si ces gens-là ne sont pas condamnés à un moment ou un autre avec une extrême sévérité, extrême, parce que toucher un enfant, surtout à des enfants si jeunes, on parle quelquefois d'enfants de 2 et 3 ans, est une telle abomination que la condamnation doit être terrible, très forte. On doit employer toutes les possibilités judiciaires qui nous sont données. Si on ne le fait pas, à partir de là, bien sûr, on sait qu'il y a une protection. Protection qui peut aller au plus haut niveau de l'État, quelquefois. Et bien entendu, on craint beaucoup pour l'avenir.
Alors, Martine, le Cercle des Femmes d'Europe, où est-ce que vous sentez en ce moment un frémissement ou une vague d'adhésion, comme on sent un frémissement politique dans les élections?
Je sens plus un frémissement politique après tous les événements récents qui viennent de se dérouler, qui sont les entrées d'immigrés clandestins, les occupations de lieux de culte, les attaques terribles que relevaient de tribunaux contre un homme comme Jean-Marie Le Pen pour des propos pourtant parfaitement normaux qu'il avait prononcés, pour des réponses qu'il avait faites à des questions posées par des journalistes. Pour ce qui est du Cercle National Femmes d'Europe, à l'évidence, beaucoup des adhérentes du Cercle maintenant se tournent vers la politique parce qu'elles ont compris que même en ayant fait une action plus associative et qui était plus tournée vers un certain nombre de secteurs qui étaient tout à la fois la famille et la protection des enfants, c'est tout de même par la politique que ces problèmes-là seront résolus. Alors, nous mettons en place en ce moment une grande campagne sur les problèmes familiaux. Il y a un dépliant qui a été diffusé déjà à plus de 100 000 exemplaires. Il y a un retirage de 100 000 exemplaires. Je pense qu'on va peut-être arriver aux 500 000 très bientôt. Et une affiche familiale pour expliquer aux gens que la politique familiale est un élément, je dirais presque l'élément prépondérant de la politique et de l'avenir du pays. L'analyse démographique qu'on peut faire de la situation actuelle de la France, qui est terrible, puisqu'on a un taux de natalité d'environ 1,2-1,3, et nous essayons de mobiliser les gens pour leur expliquer qu'ils sont en train de défendre ou de jouer la survie de leur pays. Et je crois que là, il y a une explication à donner, et il y a une mobilisation des femmes et des familles à faire. Alors, elle n'est pas mauvaise, si vous voulez, mais elle s'est beaucoup rapprochée de la politique parce que, par les déclarations qui ont été faites, et notamment par les dernières mesures Juppé, qui sont des mesures antifamiliales, il ne faut pas s'y tromper, l'attribution de l'allocation jeune enfant sous condition de ressources, la réduction de l'allocation de rentrée scolaire, la fiscalisation annoncée des allocations familiales, les taxations de plus importantes des retraités, des familles, l'augmentation de 2 points de la TVA, la CSG une première fois, la CSG une deuxième fois, la réduction du pouvoir d'achat des familles, tout cela sont des mesures antifamiliales qui sont à l'évidence dans la ligne qui avait été établie autrefois de destruction de la cellule familiale. Et puis, un certain nombre de mesures prises aussi qui touchent plus là, alors peut-être à la morale ou à la destruction de la cellule familiale en tant que telle, qui sont le débat qui a eu lieu sur le contrat d'union civile pour les homosexuels, l'adoption qui pourrait leur être accordée pour des enfants, un certain nombre d'avantages qu'on leur donne, et la non-reconnaissance de la famille en tant que telle, père, mère, enfant, la reconnaissance du mariage, le statut accordé à la mère de famille, tout cela promis par Jacques Chirac, qui avait dit qu'il portait une attention particulière à la famille, aux jeunes et aux personnes âgées, qui, très immédiatement élu, a fait le contraire. Alors je crois qu'il y a là une espèce de basculement, une espèce de basculement de ce qu'est le Cercle National Femmes d'Europe en tant que tel et son approche plus particulière de la politique, parce qu'elles sentent qu'il y a une volonté politique de destruction affirmée par ceux qui nous gouvernent aujourd'hui, à l'évidence.
Vous allez avoir un stand, j'imagine, au BBR.
Bien sûr. Bien
à quel endroit il est?
Il est dans l'allée centrale, juste après le... Il y a le terre-plein central sur lequel il y aura le grand stand de la Fédération de Paris, puisque je m'occupe des deux. Et puis tout de suite après, on continue à suivre la grande allée, presque tout de suite, le stand du Cercle National Femmes d'Europe, qui diffusera justement son dépliant famille, qui rappelle toutes nos priorités. Et puis je participerai à un forum politique le samedi à 17h, avec Karl Lang, qui sera un forum sur tout à la fois la politique sociale et la politique familiale. Et vous savez que nous souhaitons pas que la politique familiale soit inclue dans la politique sociale. Mais on parlera des deux choses et je crois qu'il y aura beaucoup à dire.
Serge Martinez, toi, tu as
bonsoir.
Mis en... Bonsoir. C'est vrai que tu n'as pas encore eu l'occasion de t'exprimer ou à peine. Donc, les BBR, c'est ton équipe qui l'a organisé?
Eh bien, comme depuis plusieurs années d'ailleurs, et avec grande joie cette année, d'abord parce que l'équipe étant parfaitement rodée, les choses se passent parfaitement bien. Et j'ajoute qu'il y a un autre sujet de satisfaction, c'est que, et c'est vraisemblablement dû au succès de l'année dernière, les exposants sont revenus beaucoup plus nombreux, et la semaine de retard par rapport aux 2 dernières années, puisque compte tenu de la venue du pape, nous n'avons pas voulu que ça se passe le même week-end, parce que nous souhaitions que le pape ait le meilleur accueil et que nos adhérents puissent voir le pape, mais également venir confortablement au BBR, et donc c'est la dernière semaine de septembre, au lieu d'être l'avant-dernier week-end de septembre, c'est-à-dire le 28 et le 29.
Combien d'exposants?
Je sais qu'il y en a plus que l'année dernière, il doit y avoir 130 à peu près. Oui, 130, oui, ça doit être ça.
Comment ça s'est passé? Est-ce qu'il y a eu des difficultés avec les autorités parisiennes?
Non. Directement et officiellement, non. J'entends qu'il y a eu une pression actuelle pour qu'on nous les interdise. J'ai lu ça dans la presse, mais jusqu'à présent, nous n'avons pas d'écho et je ne crois pas qu'ils osent aller jusque-là. Là, ils ont beaucoup moins de courage qu'il n'y paraît.
Comment ça va se passer, alors? Quel est le programme?
Le programme, d'abord, plus d'exposants, donc plus de choix pour tous les visiteurs. Bien entendu, tous nos exposants cherchent à attirer les clients à eux et donc font preuve d'imagination pour que leur stand soit attractif, leurs produits originaux, les attractions ou les produits qu'ils vendent différents et divers. Et en ce qui nous concerne, l'organisation, nous essayons de nous occuper de ce qui est général, c'est-à-dire de l'animation. Alors, comme l'année dernière, et ça avait beaucoup plu, il y aura des animations sur tout le terrain, plus d'animations, des animations de rue, qu'on appelle traditionnellement des animations de rue, hommes, orchestres, orgue de barbarie, musiciens, cracheurs de feu, chassiers, orchestres ambulants, etc., etc. Bien entendu, c'est les familles qui assistent au BBR et par conséquent, nous avons fait des efforts aussi pour que les enfants soient encore mieux, plus occupés. Et donc, il y a une garderie d'enfants très, très bien aménagée avec beaucoup d'attractions pour qu'ils puissent jouer. J'espère que le temps sera clément et même rayonnant. Ça sera bien plus agréable puisque c'est en plein air. Il y aura, et ça c'est une nouveauté, un podium de variété. Et c'est-à-dire que de manière permanente, du samedi au dimanche, ça s'arrêtera bien entendu juste avant le discours de notre président Jean-Marie Le Pen, des chanteurs vont se succéder, Kira, que beaucoup de nos militants qui sont venus lors de la tournée présidentielle ont découvert, puisqu'il accompagnait la caravane du FNJ et même il a chanté à Paris, un jeune talent très 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 méritant et de grande qualité. Le docteur Merlin, c'est connu aussi, André Galabru, Jean-Paul Godino, voilà, et puis quelques groupes comme Nouvelle Musique Européenne, Vae Victis, Les Cœurs Montjoie, bien connus, nos amis, etc. En fait, des chanteurs et des groupes qui tourneront en permanence sur ce podium. Un journaliste me posait ce matin la question, un journaliste, je ne sais plus si c'est de quelle radio ou grand hebdomadaire, grand par le tirage, hein. Le tirage, c'est comme les cheminées.
La grosse presse, comme dit présent.
Je préfère dire, moi, un journal à gros tirage, c'est un journal qui allume bien les feux de cheminée. Un de ces journalistes, en tout cas, me posait la question de savoir s'il y avait des grandes vedettes connues. Alors j'ai dit non, il n'ose pas encore. Elle a dit pas encore, qu'est-ce que ça veut dire? J'ai dit oui, pas encore, peut-être que bientôt ils oseront, mais ils sont eux aussi opportunistes et ne veulent pas prendre de risques. Je pense que de cœur, certains doivent commencer à se rendre compte que peut-être l'avenir nous appartient et plus aux autres. Donc, animation musicale permanente.
Il y aura de la musique classique.
La musique classique, partie, la musique samedi, classique.
C'est samedi, je vous dis ça parce que j'ai ma petite camarade qui chante. C'est samedi entre 4h et 6h.
Voilà. Mais une petite partie, parce que il faut le dire, la musique classique ne se prête pas à ce genre de manifestation. Il faut un peu plus de calme, une ambiance un peu plus fruitée qu'une grande kermesse, une fête.
Hein. Musique classique facile.
Voilà,
par exemple,
voilà.
On va chanter la Péricole, par exemple.
Ah bon, ouais.
Bien, et bien entendu le grand discours de Jean-Marie Le Pen dimanche, et, il y aura également les traditionnels forums politiques et culturels, et ça c'est aussi sur un autre grand stand, un grand chapiteau, tout le samedi et tout le dimanche, une messe dimanche matin, un culte également, voilà en gros le programme de CBBR.
Il y aura un stand du Libre Journal,
au centre.
On s'est associé, si j'ose dire, avec Ratier pour sa lettre Faits et Documents. Je le signale parce que...
Oui, là, c'est pareil, il n'est pas inscrit sur notre plan.
J'oubliais, il y a...
Le Libre Journal, moi, je l'ai vu sur le
Libre
plan.
Journal, oui, mais pas...
Le Libre Journal, mais pas Ratier.
Ah, alors, j'ai vu Le Libre Journal, j'ai regardé. Voilà.
Alors, j'oubliais deux choses assez intéressantes. Il y a d'abord, samedi, à 19h30, une projection du film Clovis, qui a été réalisé par notre ami Bernard Anthony. Ce film a été vu par beaucoup de personnes déjà, puisqu'il a tourné de la France. Et il sera présenté au BBR, donc...
Je le dis pas du tout par copinage, c'est vraiment un très beau film, oui. C'est un très beau travail. Oui.
Et puis ensuite, samedi soir, une grande soirée dansante. Alors, nous espérons que nos amis, le temps étant certainement beau ce jour-là, dîneront dans tous les restaurants de nos fédérations et de tous nos amis, et qu'ils pourront assister nombreux à cette soirée dansante auquel assistera, bien sûr, Jean-Marie Le Pen.
Alors, je vais livrer un scoop, parce que lui, il le dira pas, c'est que ça, tu vas faire ça où, au stand de Nîmes, alors? Au stand du Gard,
quoi,
tu vas présenter ton enfant.
Ah, oui, alors, décidément. Alors. Oui, Serge, nous avons discuté aujourd'hui, et c'est normal, il prépare ses émissions, nous avons discuté des nouveautés, et je lui avais dit que j'avais écrit un livre pendant le mois d'août, puisque je me suis un petit peu reposé après une opération, j'en ai profité pour dire tout ce que je souhaitais dire, et que je n'avais pas le temps dans mes activités de concrétiser, donc c'est... fini d'écrire un livre et qui sortira pour les BBR. Je ne voulais pas en parler aujourd'hui, cher Serge, car parler de quelque chose qui n'existe pas encore, ou tout au moins qui n'est pas en librairie et que les gens ne peuvent pas acheter, je sais qu'ils sont gourmands de ces choses-là.
Mais ils vont commencer à faire la queue cette nuit.
Au BBR, oui, effectivement, sur le stand du Gard. Ce livre sera présenté.
Bon. Et puis avant son discours, on m'a dit, moi, que Jean-Marie Le Pen chanterait lui aussi au stand de variété. C'est vrai ou c'est faux ?
Écoutez, officiellement, ça n'est pas prévu. Je sais que Jean-Marie Le Pen adore chanter.
Il chante très bien.
Un bon vivant.
Il chante très bien.
Il chanter en duo, mais je ne sais pas avec
c'est
qui.
C'est tout à fait possible. Car il en est tout à fait capable, mais ça ne fait pas encore partie du programme officiel.
Vous savez, chère dame, vous savez bien qu'il est capable de tout. Vous demanderez à Christine O'Krent l'autre jour si elle n'a pas eu l'impression qu'il était capable de tout.
De nombreux auditeurs demandent si
chante, pourquoi pas. Il l'a déjà fait dans les meetings.
Que vous parliez de cette émission. Certains l'ont vu, d'autres ne l'ont pas vu.
C'était une émission fast-food.
C'était fantastique. C'était
il l'a mangé toute crue. Et après, l'autre, comment il s'appelle ?
Gilles Leclerc.
Elle était décomposée.
Il a pris en hors d'œuvre Christine O'Krent et en plein de résistance Gilles Leclerc. C'est Gilles Leclerc.
Gilles Leclerc.
Non, mais je veux dire que si, si Madame O'Krent s'était bien comportée, c'est-à-dire si elle avait été une journaliste
neutre,
d'information, si elle lui avait posé des questions comme on les pose à tout homme politique, quand même représente plusieurs millions d'électeurs, président de groupe parlementaire, etc., et qu'elle l'avait laissé répondre, Jean-Marie Le Pen eût été comme il est toujours, c'est-à-dire tout à la fois très brillant et parfaitement courtois. Malheureusement, dès qu'il arrive...
Mais il a été parfaitement brillant et courtois.
À un moment, il l'a quand même un peu...
Au début. Bon,
et écoutez, quand il lui a jeté
il a simplement rappelé qu'elle était l'épouse de M. Kouchner, ce qui c'est peut-être une injure, mais ça, c'est à elle d'en juger.
Mais pourquoi l'a-t-elle pris comme une injure?
Je ne sais pas pourquoi elle l'a pris comme une injure, ça, c'est pas mon problème. Ça ne regarde que ce petit monde-là.
Il a été tout à fait
pas
bien.
Du tout, ça ne nous regarde pas, comme disait.
Et puis toutes les précautions oratoires juste avant de le recevoir.
Oui, pour expliquer pourquoi elle le reçoit.
Attention,
une journaliste qui explique pourquoi.
Ça n'a pas de conscience que de recevoir Jean-Marie
Le Pen. Avait été moins gênée quand elle avait interviewé... Oveida, avant son exécution par les islamistes
Nous avons eu le bon goût de ne pas le lui rappeler.
Alors, je trouve que les leçons de morale venant de Mme O'Krent, je sais très bien, moi, ce que j'en fais, je ne le dirai pas au micro, mais...
Vous savez bien que toutes les leçons de morale qui sont données au Front National le sont par les pires crapules. Par Mme O'Krent, par M. Emmanueli, le type d'Urba Gracco, par Tapie. Tous ces gens-là nous donnent des leçons de morale et puis après, on les retrouve en prison.
Il y a quand même une différence, c'est que Mme O'Krent, jusqu'à plus ample informée, n'a rien à se reprocher sur le plan légal.
Sur le plan légal, non, mais sur le plan de l'interview.
Ce qui n'est pas le cas de M. Tapie ou de M. Emmanueli, de M. Enfin, on pourrait citer, quoi, tous les... Vous savez, moi, ce que je dis depuis
des
années...
Ils sont venus, ils sont tous là.
C'est ce qu'on appelle le signe indien. Hein. Le Pen, il a le signe indien. Tous les gens qui l'attaquent, un jour ou l'autre, ils se retrouvent...
À leur place.
Bien embarbouillés. Le dernier en date, dont on va pas tarder à entendre parler, c'est, si je ne m'abuse, M. Mancel, qui est quelque chose au RPR.
Secrétaire général.
Secrétaire général du RPR, pour l'instant. Parce que la Chambre régionale des comptes est en train de s'occuper sérieusement de son cas. Et vous voyez, non, je vous dis, Le Pen, il ne faut pas toucher. Moi, j'ai compris ça depuis longtemps, c'est pour ça que je n'ai pas d'ennui avec la justice.
Quelques questions. La soirée dansante, convient-il d'être en tenue de soirée ?
Non, c'était contracté, c'est amical, et c'est après une journée de visite dans la fête des BBR.
Donc. Est-ce une soirée dansante rétro ?
Non, elle n'est pas rétro, il faut qu'elle plaise à tous, donc il y aura de la musique variée.
Surtout si c'est Stéphane qui choisit la musique.
On veut bien un peu de musique rétro.
Oui, c'est mon fils qui est...
Il y aura un peu de
tabou, qui tiendra les 20 ans, on pourra lui demander ce qu'on veut.
Je lui demanderai des passos très bien. Est-ce que le punch au stand de Dom Tom est toujours aussi bon ?
Oui, il est toujours aussi bon, mais je sais qu'il
vous
est aussi très fort. Alors,
vois.
Je ne saurais recommander trop la modération. C'est obligatoire quand il s'agit d'alcool. Mais je tiens à dire que nos amis, quelquefois, compte tenu de la joie, de l'entrain, etc., ont tendance à se laisser piéger, notamment par ce punch.
Je vais vous dire un truc, pour se noircir, c'est quand même le meilleur endroit, le stand des Dom-Tom.
Petit punch, c'est terrible, hein.
Non, c'est pas
c'est bon, mais c'est terrible.
Bien. Alors, oui. Je voudrais vous signaler qu'en ce moment, il y a une manifestation de bienvenue au pape qui se déroule devant l'église de la...
Notre-Dame de Lorette.
Notre-Dame de Lorette, oui. Organisée par nos amis de de chrétienté, solidarité. Et Thibault de la Toclay nous a téléphoné pour nous dire que ça se passe très très bien. Il y a beaucoup de monde. Et c'est d'ailleurs plus précisément devant le 60 de la rue Cadet que ça se déroule, cette petite réunion amicale. Alors, 60 de la rue Cadet, je le précise pour ceux qui ne connaîtraient pas bien le quartier, c'est le siège du grand Mamamouchi, la secte maçonnique, c'est le Grand Orient de France. D'ailleurs, il y a un auditeur qui a téléphoné en disant, écoutez bien, je suis mon cher Serge de Bekech. Il met Bekech entre guillemets, je ne sais pas pourquoi. Il doit croire que c'est un pseudonyme qui cache un honteux secret de famille. Je suis protestant. Ça commence mal. Franc-maçon de la Grande Loge, ça ne s'arrange pas. Et je vote Front National. Là, c'est le comble des combles. Ces positions s'harmonisent parfaitement, dit-il. Sincère salutation et merci pour votre énergie corrective. C'est gentil, non ?
Hein, donc, du moment qu'il vote pour le Front National, il n'est pas tout à fait mauvais.
Écoutez, il en faut. Voilà, oui, c'est tout ce qu'on peut dire. Ça.